talmudique. On dit communément l'Iran, l'Irak, l'Irlande, l'Islande, mais Israël se prononce sans article défini, à l'instar d'une principauté, Monaco, San Marino, ou d'une île, Malte, Cuba, alors qu'il n'est ni l'une ni l'autre. La langue française aurait-elle pressenti qu'Israël était un cas à part ? À part, mais comment ? Dans quel sens ? Peut-être parce que ce pays est le sujet de nombreuses contradictions, de multiples paradoxes, et surtout parce qu'il est aussi le sujet d'une profonde méconnaissance de son histoire, de ses institutions, de sa culture et de sa complexité. Comment penser tous ces paradoxes et d'autres encore fort nombreux? Comment ne pas tomber dans les pièges de la caricature, de la réduction, de l'esprit partisan, de la perte de l'esprit critique? Comment mieux apprendre et mieux connaître les données et les enjeux de ce pays qui, par la place qu'il a dans notre actualité, ne cesse de nous questionner? C'est ce que vous nous proposez, Denis Charbit, dans votre nouveau livre intitulé « Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions, qui paraît aujourd'hui même aux éditions du Cavalier Bleu ». Bonjour Denis Charbit.
Bonjour Marc-Alain Vaknin.
Denis Charbit, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre avec vous cette conversation commencée la semaine dernière. Pays de paradoxe, Israël l'est à plus d'un titre. Mais l'énoncer ne suffit pas, il faut tenter de les exposer et de les comprendre. Comment vous y êtes-vous pris, Denis Charbit, pour nous offrir cet exercice de funambule ?
Eh bien, je suis parti de la contrainte de cette collection qui s'appelle donc Idées reçues et qui consiste à structurer le livre à partir des idées reçues que l'on se fait. Ça peut être d'un personnage, d'une idéologie, d'une religion et là donc d'un État, et c'est donc l'État d'Israël puisque c'est là-dessus que j'ai peut-être quelques compétences. Donc j'en ai choisi 20. La plupart d'entre elles sont négatives. Israël est un régime théocratique, Israël est la dernière puissance coloniale, Israël pratique l'apartheid, et je dirais que mon principe a été de d'abord, dans un premier temps, de présenter de la manière la plus objective et sans la moindre caricature ce qu'entendent ceux qui prononcent ces idées-là, ce qu'ils entendent par là. Et bien entendu, je me suis livré à l'exercice inverse qui consiste à prendre le contre-pied de l'idée reçue. Et en cela, j'ai vraiment souhaité, dans un débat qui n'en est plus un, réintroduire la part de la dialectique, la part de la contradiction, en m'efforçant de donner les deux points de vue. Quand on dit Israël est une puissance coloniale, quand on dit que Israël est un État théocratique, qu'est-ce qu'on entend par là? Quels sont les arguments qu'ils avancent? Et je dois dire également que je me suis interdit de recourir jamais à l'idée que cette idée-là puisse relever d'un quelconque antisémitisme. Ça, je suis pas psychologue, c'est pas mon métier, et donc je me suis interdit. Je veux entendre les objections et dire ce qu'il y a d'audible en elle. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, je réponds à toutes ces idées reçues en disant c'est non, c'est pas vrai, mais, et j'introduis toutes les concessions possibles. Ou inversement, oui, c'est vrai, mais toutes les contraintes. Et c'est vrai que c'est un exercice de funambule, j'ai bien aimé la métaphore que vous avez employée, ça a été un bonheur de l'écrire parce que, voilà, j'ai souhaité éviter le dogme et les certitudes qui font qu'aujourd'hui, quand on parle d'Israël en France en particulier, mais même également en Israël même, on est soit dans l'admiration béate, qui est pour moi insupportable, on est pétri de bonne conscience au nom du fait qu'on nous attaque et qu'on nous diffame, eh bien ça pour moi c'est irrecevable, mais de la même manière, je suis tout aussi emporté contre cette manière de ne décrire Israël non pas comme un État comme les autres, mais comme l'État pire que tous les autres. Et ça aussi, c'est irrecevable. Et donc, d'essayer néanmoins, en partant de ces deux idées-là contraires, eh bien, d'entendre ce qu'il y a en elles d'audible, de dire voilà pourquoi certains pensent que c'est colonial, voilà pourquoi certains pensent que ça ne l'est pas, et après au lecteur de juger, mais au moins une fois pour toutes, de lui fournir les moyens de juger sur pièce. Et c'est pas un livre de militants. Je le dis d'ailleurs, ceux qui viennent chercher dans ce livre de quoi blinder leurs convictions, alors ils liront qu'une partie du chapitre à chaque fois. Moi, j'ai cherché à les inquiéter, à les faire bouger. On peut penser A ou on peut penser B, eh bien, introduisez dans votre raisonnement quelque chose qui vient de l'autre côté. Ça me paraît être, en plus, la fonction réelle d'un intellectuel aujourd'hui.
Commençons, si vous le voulez bien. La démocratie d'Israël est, dites-vous, le premier paradoxe d'une longue série. Commençons par lui. En quoi Israël est une réelle démocratie? Est-ce que c'est par la liberté d'expression qui y est totale, parce que, comme vous le soulignez, rien ne vient entraver la possibilité effective non seulement de dénoncer les tares et les lacunes du système, mais également de s'organiser pour le changer. Est-ce que c'est le point principal ou y en a-t-il d'autres?
Non, il y en a d'autres, bien évidemment. J'ai voulu commencer par là parce que c'est toujours ce qui frappe. C'est-à-dire, et j'entends bien d'ailleurs les critiques de la droite en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce pays où des députés arabes peuvent s'exprimer, dire le pire, mais ils auraient été renvoyés, virés de l'Assemblée nationale, si ça avait été le cas, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a cette liberté-là, et tout le monde en est bien conscient, et je dirais que ça me fait, pour moi, ça fait partie de la richesse de l'expérience israélienne, même si c'est cacophonique à bien des égards. Je dirais que, pour moi, les éléments fondamentaux de ce qui fait qu'Israël est, donc, l'idée reçue, la seule démocratie au Moyen-Orient, c'est effectivement, d'une part, ce pluralisme politique, 10 partis politiques en moyenne à la Knesset, des partis ethniques, des partis confessionnels, des partis de gauche, de droite, du centre. Donc ce pluralisme-là, on peut pas le nier. Pour faire un parti politique en Israël, il faut quelques signatures et un petit manifeste, et puis ça y est, c'est bon, c'est enregistré. Après, il faut avoir les suffrages, bien sûr, des électeurs. Il y a aussi également un pluralisme confessionnel. On est au Moyen-Orient, les religions ont une visibilité, que ce soit l'islam, que ce soit, bien sûr, le judaïsme, la religion druze.
Et comment? Et le christianisme.
Et le christianisme, exactement. Et la libre pensée. Donc, il y a ce pluralisme de conviction, un pluralisme linguistique. Les Arabes apprennent en Israël, je parle des Arabes israéliens, les Palestiniens d'Israël, étudient, leur langue maternelle, c'est l'arabe, c'est ce qu'ils apprennent au sein de leur famille. Et à l'école, ils apprennent en arabe. Leur personnalité culturelle et religieuse est entièrement respectée. Et puis, il y a, je dirais, si on passe aux politiques, puisque c'est quand même ma formation, il y a quand même ce qui aujourd'hui apparaît comme la clé d'un système démocratique, c'est pas simplement des élections régulières et pluralistes, et la légitimité du suffrage universel, par rapport à l'accusation d'État théocratique. Ceux qui votent, ce sont les citoyens israéliens, et vous pouvez être juif de la diaspora et aimer Israël, si vous n'êtes pas citoyen, vous ne votez pas. Donc les 1 400 000 Arabes ont plus de droits politiques que n'en ont les juifs de la diaspora, il faut le dire une bonne fois pour toutes par rapport à l'accusation qui pèse là-dessus, mais je dirais que ce qui me paraît aujourd'hui essentiel, et ça a été une évolution dans le régime politique que j'analyse dans ce chapitre sur la démocratie israélienne, c'est l'autorité judiciaire indépendante. La Cour suprême d'Israël a, depuis les années 90, un rôle qu'aucune autorité judiciaire dans le monde, et en particulier en France, n'a. C'est-à-dire qu'elle peut annuler des lois, c'est beaucoup plus que le Conseil constitutionnel, et en plus sur des affaires qui touchent, voilà, à l'organisation, aux valeurs de la société, concernant la religion, concernant la liberté d'expression, d'organisation. Ça, c'est effectivement, ça me semble être aujourd'hui un des bastions de la démocratie israélienne, bien entendu, et j'annonce également. Certains disent, mais c'est le gouvernement des juges, c'est un changement de régime. C'est vrai que par rapport à la démocratie parlementaire et jacobine qui a caractérisé Israël depuis 1949 jusqu'aux années 90, c'est vrai que de ce point de vue-là, l'évolution aujourd'hui est effectivement à quelque chose qui est beaucoup plus centré sur cet affrontement entre la Knesset souveraine, on n'a pas de constitution formelle écrite en Israël, et une Cour suprême qui se permet d'interpréter et parfois de renvoyer les parlementaires à leurs travaux.
Alors on comprend bien que la démocratie d'Israël se défend bien. Et pourtant, il existe une polémique sur l'aspect démocratique de l'État d'Israël. Sur quoi porte cette polémique et quels sont les arguments de ceux qui disent que Israël n'est pas démocratique? Denis Charbit.
Alors, c'est sûr que, je veux dire, tout régime démocratique, il y a beau avoir une structure démocratique unifiée entre États-Unis, France, Australie, Israël et Japon, bien entendu que chaque tradition historique, culturelle, etc., fait valoir des différences. Alors, la question est la suivante. Comment évalue-t-on ces différences? Est-ce qu'elles sont des écarts, des déviations conjoncturelles par rapport à la situation de guerre, par rapport à l'état d'urgence, ou bien on considère que ce sont des écarts structurels et donc du coup qui font que certains estiment que ce n'est pas une démocratie? Alors moi je dirais que globalement, pour répondre sur un pied comme on dit, alors l'emprise de la religion par exemple ou l'emprise de l'armée effectivement est totalement différente et à l'écart de la norme occidentale. Mais je dirais que plus fondamentalement, pour aller à l'essentiel, je crois que la singularité d'Israël en termes de démocratie, c'est qu'elle n'est pas fondée sur la notion chère à la République de nation civique. La nation civique, c'est il y a un tronc hégémonique français, on accueille tous les étrangers qu'on peut, mais ils doivent se fondre dans ce modèle culturel et politique qui est la République française. Israël n'est pas fondée sur ce modèle. Il y a une distinction entre l'appartenance ethno-nationale et l'appartenance civique. Pour dire ça autrement et plus concrètement, nous sommes tous des Israéliens, mais ce n'est pas parce que nous sommes tous des Israéliens, et là je vais dire quelque chose qui va surprendre, mais juifs et arabes en Israël ne considèrent pas, sous prétexte qu'ils vivent dans le même territoire, qu'ils sont soumis à la même loi et qu'ils votent ensemble, qu'ils appartiennent au même peuple. Ce sont deux peuples qui vivent ensemble. Un en majorité, près de 75 à 80% de l'État d'Israël, les Juifs d'Israël, et environ 20% d'Arabes. Cette reconnaissance d'une appartenance ethno-nationale et religieuse d'ailleurs, distincte d'une appartenance civique, ça c'est un modèle que l'on ne connaît pas. Et alors du coup, il a ses avantages et ses inconvénients. Allez demander aux chrétiens et aux musulmans arabes d'Israël, ils vont vous dire que le fait qu'ils puissent disposer d'une autonomie confessionnelle totale, on ne se mêle pas de nommer ni leurs évêques, ni leurs imams, etc. Je le dis dans le livre avec un peu d'ironie, les tribunaux de famille pour la communauté musulmane sont ordonnés selon la charia. Eh bien, de ce point de vue-là, pour bien souligner la différence avec le modèle français, en Israël, le communautarisme n'est pas un gros mot. Voilà. Les communautés existent, elles doivent continuer d'exister. À nous, moi par exemple, comme citoyen, d'essayer de républicaniser ça un petit peu plus, parce que je suis très sensible à la vertu et à la valeur de la conception républicaine, mais en même temps, en France, c'est une nation civique, et est-ce que pour autant on a résolu tous les problèmes des minorités qui n'existent pas officiellement, mais qui de fait s'expriment ? Donc, je ne défends pas un modèle, je dis simplement, voilà, concevez que la démocratie peut avoir des modèles différents, et je reconnais que celui d'Israël est tout à fait singulier.
On comprend cette argumentation. On accuse souvent Israël de racisme, je pense de manière paradigmatique, à la conférence de Durban qui a fait adopter en 1975 une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies considérant que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Résolution révoquée, il faut le dire, le 16 décembre 1991 et en 2004, le 21 juin, à l'occasion de l'ouverture de la première conférence des Nations Unies sur l'antisémitisme, Kofi Annan a fait cette déclaration. Force est de reconnaître que les actions de l'Organisation des Nations Unies en matière d'antisémitisme n'ont pas toujours été à la mesure de ses idéaux. Il est déplorable que l'Assemblée Générale ait adopté en 1975 une résolution dans laquelle elle assimilait le sionisme au racisme et je me félicite qu'elle soit depuis revenue sur sa position, dit Kofi Annan. Quoi qu'il en soit, le mal était fait, et c'est la première résolution qui est restée dans les mémoires et les oreilles, appuyant souvent un autre cheval de bataille de détracteurs d'Israël, la loi du retour qui serait une loi raciste, ou encore Israël pratiquerait l'apartheid. Comment comprendre cette loi du retour? En quoi pose-t-elle des problèmes pour ses détracteurs, Denis Charbit?
Alors, cette loi du retour, il faut bien comprendre, elle naît de la situation historique particulière du peuple juif. À savoir que les juifs sont dispersés à travers le monde, que pour les raisons historiques, culturelles et, je dirais, surtout les contingences, on a estimé qu'il était essentiel pour les juifs de disposer d'un État, et que, dans la mesure, et c'est important de le souligner, puisque vous avez évoqué les Nations Unies n'ont pas voté le plan de partition de la Palestine en deux États pour les 600 000 juifs qui y existaient. Ils l'ont fait pour l'ensemble des juifs, notamment les personnes déplacées, ceux qui, à la fin de la guerre, ne pouvaient pas rentrer chez eux, en Pologne, en Allemagne et ailleurs. Et c'est vrai qu'une des premières dispositions législatives adoptées par la Knesset est de dire, voilà, tout juif est un rapatrié. Tout juif peut revenir sur sa terre maintenant qu'il existe cette structure politique qu'on appelle l'État d'Israël. Et on n'y met pratiquement pas d'obstacles. Il y en a quelques-uns, mais ils sont tout à fait mineurs. Et c'est ce mouvement-là qui a permis, effectivement, à des juifs du monde entier de venir. Et pas dans l'abstraction de n'importe quel juif, en particulier ceux qui étaient dans des pays où ils étaient dominés, persécutés, marginalisés. Et Voilà, c'est le hasard de l'histoire qui fait que, en 1948, vous aviez trois quarts des Juifs qui se trouvaient dans des pays où ils ne disposaient pas de droits. Là où ils en disposaient, c'est pas effectivement de là qu'ils sont venus s'établir. Alors, Israël estime que c'est ça, d'abord et avant tout, le caractère juif de l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'il est d'abord et avant tout, et presque, je dirais même exclusivement, ouvert aux Juifs du monde entier. Les Juifs du monde entier, il suffit qu'ils se présentent, qu'ils en fassent la demande, et ils deviennent quoi ? Ils deviennent citoyens israéliens. Et il n'y a pas de processus de naturalisation. Alors, pourquoi ça a été vécu comme, ou pensé comme une loi raciste ? Et j'examine effectivement les objections, mais j'ai envie de dire pour une raison très simple. C'est qu'en 1948-1949, à la fin de la guerre d'indépendance, vous avez près de 700 000 Palestiniens qui se retrouvent en dehors de leur foyer. Et là, du coup, je dirais que si ce problème ne s'était, s'il n'y avait pas eu ce problème-là, cette réalité-là des réfugiés, bah alors que des Juifs veulent retourner, bah qu'ils y retournent. Les Arméniens, l'Arménie indépendante née après 1991 a fait une loi du retour sur l'Arménie, mais ça ne gêne personne parce qu'il n'y a pas eu, dans le moment de la création de l'Arménie, la nécessité de faire évacuer, ou il n'y a pas eu en tout cas de départ d'autochtones. Ça a été le cas dans le cadre de l'État d'Israël. Et donc, du coup, certains disent, alors, des Juifs qui n'y étaient pas depuis 2000 ans, ils peuvent revenir et ils deviennent automatiquement citoyens israéliens. Et ces 700 000 Arabes de Palestine qui vivaient à Nazareth, à Haïfa, à Jaffa, eux en sont privés. Et je ne peux pas nier, c'est là où je sors de ce débat, sans en faire, loin de là, une idée loi raciste, puisqu'elle aurait eu lieu de toute façon, même s'il n'y avait pas eu de réfugiés. Mais je ne suis pas non plus en train de dire, je ne peux pas être sourd à cette inégalité de traitement. Alors, je dis d'ailleurs que le problème de la loi du retour, ce n'est pas qu'elle existe, c'est le fait qu'elle soit exclusive. C'est-à-dire qu'elle elle n'ouvre pas la voie à une naturalisation de personnes qui ne seraient pas juives. Et voilà pourquoi il y a un débat aussi animé. C'est à cause de la circonstance historique de 1948. Autrement, mais je veux dire, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça gêne qui que ce soit que l'Allemagne permette à des Allemands de réintégrer la nationalité allemande ? Non, bien entendu que non, parce que le contexte est différent.
מחשד מאור, רוצה לחזור אל הבית בו מזמן התחלתי כמו ילד טוב אל זרות אמו אל האמת שבה צללתי והאמת שאין אמת אחת או שתיים ציפור בחל עם הידיים והשקר בחלוף והאמת שאתה הוא אלוהינו ואתה הוא מושיענו ואתה אהבתי בסוף והאמת שאתה היחידה
Je crois que cette chanson reflète bien l'esprit de votre ouvrage, Denis Charby, deux chanteurs israéliens. Shlomo Artzi, l'un des plus grands chanteurs israéliens qui vient de sortir un album, et Ishai Ribo, un jeune chanteur de la nouvelle génération, l'un né en Israël en 1949, le second en France en 1989, 40 ans les séparent et les unissent dans cette chanson intitulée Vérité, dont les paroles disent qu'il existe toujours plusieurs vérités, plusieurs perspectives, une façon de rappeler la parole de Nietzsche si fondamentale, l'art nous a été donné pour que nous ne mourions pas de la vérité. Dans les débats qui concernent Israël, il existe un argument qui revient sans cesse, celui du colonialisme d'Israël, argument dont le lexique est celui du colonial, des colonies, des colons. Colonial Israël, soit, mais depuis quand ? Depuis toujours, jamais, à partir de la guerre des six jours seulement. Denis Charbit.
Oui, c'est un dossier effectivement certainement le plus épineux que j'ai eu à traiter. Et là aussi, avec ma conviction profonde, je dis qu'on peut réconcilier les points de vue, c'est-à-dire qu'on peut introduire dans chacun de ces points de vue quelque chose qui permet d'atténuer soit la dénégation, soit au contraire l'accusation. Alors, en Israël, les Juifs d'Israël, et une grande partie également des Juifs de la diaspora, rejettent cette argumentation au nom du principe du droit à l'autodétermination. Si on reconnaît que les Juifs à l'instar de n'importe quel autre peuple, y compris les Palestiniens, ont droit à une autodétermination nationale qui prend la forme d'un État, alors en quoi le sionisme est-il un colonialisme ? Ça, c'est l'objection, je dirais, profonde. Alors, ce qu'ils avancent également, ce que les partisans de cette attitude-là avancent également, c'est que on n'a certainement pas affaire, par rapport au modèle colonial, à un colonialisme d'exploitation. On n'a pas cherché à exploiter. En général, d'ailleurs, les Juifs travaillaient tout seuls la terre, etc. Donc, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas de métropole. Hein, c'est pas la France, son empire qui s'étend en Afrique, en Asie, etc., ou la Grande-Bretagne. Donc, on n'est pas dans ce modèle-là non plus. Et je dirais d'ailleurs, par rapport non seulement à la politique coloniale, mais également l'imaginaire culturel colonial, vous n'avez pas en Israël et en Palestine d'avant la création de l'État d'Israël, vous n'aviez pas d'exposition coloniale avec l'exposition des indigènes, vous n'avez pas d'André Gide pour écrire en hébreu Un voyage au Congo et au Tchad pour montrer les brutalités dont se servent les colons vis-à-vis de leur sujet, et il n'y a pas de littérature coloniale non plus. Ce que rétorquent les partisans de l'explication du sionisme par le colonialisme, dire oui, mais c'est quand même un colonialisme de peuplement. C'est vrai qu'il n'y a pas de métropole qui envoie ces juifs, mais il y a un colonialisme de peuplement comme l'Australie et les États-Unis. J'entends cette objection. C'est-à-dire, en gros, le sionisme, c'est cette idéologie qui tend à remplacer les autochtones pour que les juifs prennent la place. J'entends cette objection-là. Elle me paraît pas complètement infondée. Oui, à ceci près que, premièrement, on va quand même pas comparer 20 000, allez, on va mettre, en incluant même les territoires, 25 000 km carrés avec l'étendue des États-Unis et avec l'étendue de l'Australie. Premièrement. Deuxièmement, j'ai pas souvenir qu'on a proposé aux aborigènes de partager l'Australie en deux et de partager les États-Unis en deux. On les a exterminés, on les a relégués. Là, vous avez, en ce qui concerne la Palestine, vous avez un affrontement entre deux mouvements nationaux. Alors, avec un vainqueur et un vaincu à la fin, certes, mais l'histoire n'est pas terminée. Et c'est là, alors, à propos de paradoxe, je dis, mais comment se fait-il que vis-à-vis de l'Australie et des États-Unis, où là, le colonialisme de peuplement est irréversible, il n'y a pas de solution binationale, etc. Et là, on s'accommode de ce qui a été un génocide et une relégation, une marginalisation totale, là où, en Israël, Palestine, là où une solution encore est possible, et quelle qu'elle soit. Et là, on s'en prend à Israël comme, mais bien pire qu'on ne l'a jamais fait pour les États-Unis et l'Australie. Et le deuxième point, alors effectivement, je dis, quand commence le colonialisme ? Est-ce qu'il est avant, depuis le début, ou bien c'est depuis 67 ? Parce que là, pour le coup, quand on situe le curseur à partir de 1967, on peut dire, attendez, là, la métropole, elle existe, elle s'appelle l'État d'Israël, et elle envoie une partie de sa population, ou ils partent d'eux-mêmes, enfin, qu'importe, et ils vont s'établir dans les territoires, ok ? Alors là, l'objection israélienne, elle se réduit désormais à un seul argument. Nous avons un lien avec cette terre-là. Et je l'entends aussi. C'est-à-dire que du coup, ce serait un peu comme la querelle entre l'Alsace et la Lorraine, entre la France et l'Allemagne. La France n'avait aucun lien intrinsèque avec l'Algérie, avec le Sénégal, avec le Cameroun. Même si on conteste la présence d'Israël dans les territoires du fait de la revendication nationale des Palestiniens, personne ne peut dire que la Cisjordanie ou la Judée-Samarie n'entretient pas un lien historique et culturel avec le peuple juif. Mais je dirais que ce qui, pour moi, alors je reviens un pas en arrière ou en avant, qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie ? C'est une situation coloniale telle que la décrivait non pas Frantz Fanon, mais Albert Memmi. Qu'est-ce qu'il disait ? C'est quoi une situation coloniale ? C'est pas l'exploitation, l'explication marxiste, capitaliste, tout ça n'a aucun intérêt, aucune. Une situation coloniale, c'est quand il est très clair pour les uns et pour les autres à qui servent les institutions qui s'y trouvent. L'armée en Cisjordanie, elle est là pour protéger tous les habitants ou elle est pour protéger les habitants juifs au détriment ? Les investissements économiques, ils sont là pour favoriser le bien-être de toute la population ou non ? Ça, vous n'avez pas en Israël. Quand il y a un policier qui fait son travail en Israël, il est là pour servir la sécurité et la propriété des uns et des autres. Arabes, juifs, musulmans, libre-penseurs, etc. C'est pas le cas en Cisjordanie et donc de ce fait, là, l'accusation coloniale est plus justifiée. Elle ne l'est pas par rapport à l'identité de la terre sur laquelle tout cela s'exerce, mais elle est certainement par rapport à une situation, et là par rapport à la démocratie un peu singulière, une démocratie, et je sais bien que la France républicaine, la France de 36 du Front Populaire, elle avait un empire, dans lesquels les sujets, et pourtant c'était aussi une démocratie, mais c'est vrai que ça mine la démocratie, et c'est pour ça que je pense qu'il faudra trouver une solution qui fasse des Palestiniens soit des citoyens indépendants de leur État souverain, ou alors, si Israël y est également disposé, des citoyens de plein droit à égalité avec les autres citoyens israéliens.
Un futur État palestinien possible dans votre proposition. Parmi les enjeux complexes de ce conflit, il y a aussi, Denis Charvit, un chapitre consacré à Jérusalem, capitale revendiquée par l'État d'Israël et par le futur État de Palestine. Vous terminez ce chapitre par la remarque suivante. La solution réside peut-être dans l'étymologie et la structure de son nom hébraïque, Yerushalayim. Sa racine shalem, qui signifie entier, complet, parfait, exige l'unité. Son suffixe, ayim, est celui-là même qui distingue dans la langue hébraïque toute chose qui va par pair, comme par exemple les yeux, les oreilles, les chaussures, etc. Ainsi, le nom même de Jérusalem, dites-vous en hébreu, rappelle que la ville doit être un lieu d'unité dans le respect de sa dualité intrinsèque. Et ça me plaît beaucoup, mais dans la lignée de cette interprétation, j'ai depuis longtemps fait une proposition concernant à la fois le conflit dans son ensemble et Jérusalem en particulier. Les enjeux symboliques du conflit sont si importants que je pense que le nom, comme vous le soulignez, est essentiel. Il y aurait deux mouvements inverses à explorer et à proposer. Commençons par Jérusalem. Dans le cas de cette ville capitale, le partage territorial serait lui-même plus simple, me semble-t-il, si l'on proposait que Jérusalem soit le nom de la partie de la ville conservée par Israël et qu'un autre nom, Al-Quds par exemple, qui signifie la ville sainte, nom déjà utilisé par les Arabes et les Palestiniens, soit le nom officiel pour désigner la capitale du futur État palestinien. Mais en même temps, il y aurait peut-être à repenser le nom d'Israël, qui me semble a effacé à tort trop vite et trop radicalement le nom de Palestine que lui proposait l'ONU en 47 et qui est le nom de cette terre depuis la révolte de Bar Korba en 135 de notre ère. Ne faudrait-il pas deux Palestines, une Palestine arabe et une Palestine israélienne, Denis Charvit?
Waouh, quel enjeu. D'abord, je rappellerai effectivement qu'en anglais, aux Nations Unies, on parlait de Jewish Palestine et de Arab Palestine, donc d'une Palestine juive et d'une Palestine arabe, et même en français, quand on utilisait cette notion de Palestine juive et de Palestine arabe. Est-ce que ça pourrait être réintégré? Alors, je dirais que pour Jérusalem, ça me paraît plus facile. Vous savez, dans tous les panneaux israéliens qui indiquent Jérusalem, donc c'est indiqué en hébreu, Yerushalayim, en anglais, Jérusalem, ou en français, Jérusalem, et puis, il y a en arabe deux mots, Yerushalayim Al-Quds, c'est-à-dire la traduction en arabe de l'hébreu, Yerushalayim, et Al-Quds, qui est le nom, effectivement, musulman de la ville. Alors, je vais vous faire une révélation. Les Palestiniens n'emploient jamais l'expression de Yerushalayim, c'est-à-dire l'expression arabisée de Yerushalayim. Pour eux, c'est un nom étranger, c'est uniquement Al-Quds qui l'entend. Et donc, je pense que ce partage-là pourrait être entendu par les uns et par les autres. Je crois qu'on se méfie beaucoup dans la région de l'usurpation du nom par les uns et par les autres. Alors, ce que vous suggérez là à propos de la Palestine, maintenant je passe au deuxième volet de votre question, est très audacieux. C'est-à-dire que vous dites en quelque sorte, eh bien, entendons-nous sur le nom qu'a donné Adrien, puisque c'est lui qui a baptisé, pour déjudaïser la Judée, a employé le terme de Palestine. Et qu'est-ce que cela ferait? Alors, je pense qu'il faudrait un travail pédagogique auprès de mes concitoyens juifs en Israël qui est très ambitieux, mais c'est vrai que, je dirais, sur le papier et dans l'idée, ça permettrait effectivement de rétablir ou de reconnaître que cette terre a eu de multiples propriétaires, de multiples identités. Je me demande si, parce qu'on l'a proposé parfois, si la notion de Israël, par exemple, qui est Israël et le suffixe de Palestine, ne permettrait pas d'assagir. Mais en tout cas, c'est à étudier. Je crois en tout cas que ce que j'entends bien dans votre proposition, et elle est je suis de pair avec cette idée-là, et je le disais tout à l'heure à propos même de la structure du livre, c'est garder votre conviction, mais introduisez, laissez-vous inquiéter par la revendication d'autrui. Ne l'ignorez pas. Alors que ça prenne cette forme-là de dire Palestine juive ou Palestine arabe, pourquoi pas? Le tiers permet effectivement ici de modérer les concurrences, les compétitions, mais je crois que Je souscris en tout cas pleinement à la démarche qui consiste à dire il ne s'agit pas de vous menacer, on ne vous demande pas de changer d'identité, mais d'introduire quelque chose, une fois que vous êtes affermi dans votre identité, introduire celle de l'autre et voir qu'elle ne menace pas.
Alors vous concluez votre livre en nous invitant à relire Camus et sa conférence prononcée à Athènes sur l'avenir de la tragédie en 1955. Pourquoi cette référence d'une part et pourquoi terminer sur la parole d'un écrivain ? La littérature serait-elle incontournable pour nous permettre de penser avec justesse et justice, Denis Charvite ?
Je vais faire cette confidence-là. J'ai presque envie de dire que j'ai écrit ce livre pour pouvoir imprimer cette page-là, ces conseils de prudence tirés non pas de l'homme révolté ou de la peste ou de l'étranger, mais de cette conférence prononcée à Athènes et dans lequel il exprime parfaitement cette idée en opposant, à propos d'une réflexion sur la tragédie grecque, en opposant le drame, le mélodrame et la tragédie. Et il a, si vous permettez de le lire, alors je pense effectivement que la littérature peut dire parfois des choses que la politique n'est pas capable de dire. Voilà, je lirai deux, trois phrases, mais je cite le texte plus longuement. Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. La formule du mélodrame serait en somme un seul est juste et justifiable, et la formule tragique par excellence, tous sont justifiables, personne n'est juste. Et je lis cette phrase-là que je dois dire, chaque fois que je fais une conférence autour de ce livre, je lis ce texte-là, et notamment cette phrase-là. Sur une certaine limite, tout le monde a raison. Et celui qui, par aveuglement ou passion, ignore cette limite, court à la catastrophe pour faire triompher un droit qu'il croit être le seul à avoir. La tragédie du conflit israélo-palestinien, c'est que chaque parti est convaincu qu'il a un droit qu'il est le seul à avoir et à posséder. Et il y aura la paix, non pas parce qu'il y aura tel premier ministre israélien ou tel président palestinien, c'est pas une question de personne, c'est le jour où les Israéliens et les Palestiniens seront convaincus qu'ils ne sont pas les seuls à avoir sur cette terre un droit.
Merci Denis Charvite pour cette très importante conversation et enflammée. Je rappelle le titre de votre livre, Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions, aux éditions Le Cavalier Bleu. Je terminerai par une citation d'Eli Barnavi qu'il donne dans sa préface de votre livre. Dans un monde bien fait, nul ne devrait se permettre de parler d'Israël avant de lire ce livre. Merci encore Denis Charvite.
Merci Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Claire Levasseur, à la réalisation, comme d'habitude, d'Annie Journeau, Coltouv Leitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.